les eaux fleurissent. Rie, entre la vie est un délice. Rie, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lyre. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
C'est toujours un grain de sel dans nos vies.
Les éclats de lyre. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des éclats de lyre. Aujourd'hui, les interviews reprennent et donc je suis très heureuse de passer cette émission en compagnie téléphonique de Géraldine Alibeu. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci.
Superbe. Géraldine Alibeu, vous êtes donc illustratrice pour la jeunesse, mais aussi autrice et céramiste également. Je pense que la pratique du dessin et de l'art ne vous a jamais quitté depuis votre enfance.
Oui, alors je vais mettre un petit bémol sur la céramique quand même. Oui. Disons que j'ai fait pas mal de céramique, vraiment en loisir, mes heures perdues, mais on ne peut pas dire que je suis céramiste quand même. Mais j'ai utilisé plutôt la céramique comme support de dessin aussi, pour avoir une autre pratique de la peinture et du dessin. Mais je suis plutôt dessinatrice, on va dire.
Est-ce que vous utilisez plusieurs outils différents ? Donc, il y a la gouache, il y a le papier et aussi la céramique.
Oui, bah alors, mon matériau, c'est vraiment le papier. Oui, papier, gouache, c'est vrai, ces dernières années. Papier découpé beaucoup, en fait, depuis mes débuts. C'est aussi beaucoup le collage et le découpage qui m'intéressent.
Mmh. Et donc,
je vais un peu plus vers la peinture et la gouache ces derniers temps. Enfin, c'est vrai que pendant longtemps j'ai utilisé la peinture à l'huile. Et voilà, maintenant je vais un peu vers la gouache. Enfin, ça évolue tranquillement, doucement.
Ça évolue et se transforme.
Voilà.
Peut-être au rythme de vos influences ou juste de vos envies.
Bah, oui, c'est sûr, au rythme de mes influences, au rythme de mes ateliers aussi, parce que quand j'ai beaucoup de place, je travaille différemment que quand j'ai un petit bureau. Donc c'est vrai que inconsciemment, mon dessin s'adapte aussi à la place que j'ai eue dans les divers lieux où j'ai travaillé. Et j'ai pu faire, pour la peinture à l'huile, il faut beaucoup de place pour faire sécher. Enfin bon, on s'organise comme on peut. La couture aussi, j'ai utilisé. Voilà, quand j'ai eu des endroits plus petits, j'ai fait aussi plus de crayons Posca. Des papiers découpés sans peinture aussi, tout simplement. Ce sont des techniques que j'utilise comme quand je rencontre les enfants, par exemple, lors d'ateliers. Et du coup, je les utilise aussi pour moi. Vraiment, des fois, utiliser peu de moyens, c'est pas mal aussi.
Ça apporte des contraintes qui rendent un effet positif derrière.
Oui, ça épure un peu.
Donc vous, la pratique du dessin ne vous a jamais quitté. C'était vraiment quelque chose que vous vouliez faire dès l'enfance et que vous avez poursuivi?
Oui, c'est ça. Comme pas mal d'enfants, je dessinais et puis je me suis jamais arrêtée.
Oui, parce qu'il y en a qui s'arrêtent malheureusement.
Voilà, je dessinais au collège, je dessinais au lycée et puis j'ai voulu faire des études de dessin sans trop savoir pour aller où, dans quel but. Et puis j'ai rencontré des illustrateurs aux Arts Déco de Strasbourg. Et voilà, et je me suis dit, c'est ça que je fais, c'est ça que je veux faire.
Et vous avez rejoint justement à Strasbourg l'atelier d'illustration de Claude Lapointe, qui est un atelier qui a formé quelques illustrateurs, scénaristes, auteurs de BD, auteurs de dessins de presse qu'on connaît pas mal.
Oui, une bonne génération d'auteurs de BD, illustrateurs jeunesse. Effectivement, moi quand j'étais, c'était encore Claude Lapointe. Mmh. Il a pris sa retraite quelques années après. Et puis l'atelier continue, c'est un atelier qui est assez important aux Arts Déco. Il y a une vingtaine d'étudiants par promo, enfin, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais
Et alors, j'ai noté quelques noms qu'on connaît bien, comme Benjamin Chaud, qui est un illustrateur jeunesse, mais il y a aussi Marion Fayolle, Lisa Mendel, Marjane Satrapi, Mathieu Sapin, quand même des personnes dont on a entendu parler ensuite.
Ouais, la liste serait longue, mais il y en a plein et ça continue.
Et qu'est-ce qui vous a apporté cet atelier dans votre pratique ou dans votre rapport à l'illustration ?
Ben, la première chose, c'est quand même la rencontre des autres étudiants, de voir la manière de travailler de chacun. Bon, certains d'ailleurs qui sont toujours des amis, mais au niveau purement de la pratique et au niveau artistique, c'était une ouverture tout simplement à se décoincer un peu, à dessiner différemment, à gagner en autonomie aussi, parce qu'à l'époque, en tout cas, on n'était pas très cadré non plus. Hein, c'était des études assez libres. On n'était pas censé non plus chercher notre style. Ou c'est pas du tout une école qui a une visée d'art appliqué, au sens ça forme pas des gens qui savent s'adapter à tous les styles et travailler dans des maisons de production pour travailler au service d'autres dessinateurs. C'est vraiment chacun suit sa voie très librement. Au contraire d'écoles comme Les Gobelins, Émile Cole, où les gens vont être plus techniciens. Là, l'idée, c'est plutôt de chercher en soi comment on veut s'exprimer. Et du coup, c'était assez expérimental. On était poussé à aller dans pas mal d'ateliers différents, d'essayer toutes les techniques possibles. Et puis, donc c'est surtout ça, c'est un état d'esprit d'expérimenter et de chercher toujours. Quand je suis sortie de l'école, j'étais pas complètement formée. Enfin, j'avais pas un style particulier. J'ai continué à chercher, puis ça continue toujours d'ailleurs, c'est jamais terminé.
Et est-ce que vos études vous ont préparé déjà à des publications, à des rencontres avec des éditeurs ?
Alors, pas trop. J'espère que ça a changé. Mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'on m'avait poussé à aller au Salon de Montreuil, qui était déjà une référence à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré mes premiers éditeurs, notamment Autrement Jeunesse, avec qui j'ai commencé.
Oui.
Donc j'ai rencontré Sandrine Mini et Camille Pagdel, qui travaillent toujours dans le milieu de l'édition, mais évidemment plus chez Autrement, puisque ça a disparu. Mais voilà, c'est eux qui m'ont fait confiance en premier pour faire mon premier livre.
Vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre et de ce premier projet éditorial ?
Oui, c'était un peu organisé... c'était un peu le bazar quand même. Hein. On rencontrait des éditeurs, mais disons qu'on choisissait pas vraiment. On rencontrait l'auditeur qui était là au moment où on faisait la queue pour essayer de rencontrer quelqu'un avec un book sous le bras. Et j'ai eu la chance qu'il y ait autrement, j'ai une table Autrement Jeunesse qui se libère au moment où j'arrivais. Et j'avais quelques dessins en sérigraphie qui leur ont plu. Et mes histoires n'étaient pas très au point, mais ils m'ont proposé un texte. Sandrine Mini m'a proposé un texte assez rapidement après. Et je m'en suis emparée pour... ça m'a servi de projet de diplôme. Un texte de Delphine Demilly qui s'appelait « Le petit arbre chevelu ». Voilà, c'est mon premier livre qui ne ressemble pas tellement à mes autres livres. C'est vraiment un travail d'école en sérigraphie, ce qui n'est pas forcément la technique idéale quand on fait de l'impression traditionnelle, en fait, parce que je ne l'ai pas réalisé réellement en sérigraphie, au final, ça a été imprimé très classiquement. Mais voilà, c'était mon premier livre, et du coup, après, j'ai continué un peu avec Autrement Jeunesse, c'est fait partie des éditeurs avec qui j'ai publié les premiers livres que j'ai écrits aussi, parce qu'ils étaient prêts à attendre d'autres livres qui ne ressemblaient pas forcément à mon premier. Enfin voilà, c'était l'état d'esprit que j'ai retrouvé un peu à la joie de lire après. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un livre dans un certain style que forcément on va faire toujours la même chose. Donc ça, c'était assez confortable, de cette sorte de confiance qu'on m'a faite.
Et après, vous avez multiplié, enfin pas multiplié de manière énorme les éditeurs, mais vous en avez quand même plusieurs différents avec une belle diversité.
Oui, j'ai jamais été dans la surproduction quand même, mais c'est vrai que en tant qu'illustratrice, parce que j'ai pas non plus écrit beaucoup de textes, j'ai beaucoup illustré des textes d'autres auteurs.
Oui.
Et du coup, des textes qu'on m'a proposés, que des éditeurs m'ont proposés, des fois pour une collaboration unique, et puis des fois pour faire plusieurs livres ensemble. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal d'auteurs, j'ai essayé plusieurs... Je me suis un peu formée à qu'est-ce que c'est que la littérature jeunesse, parce que j'en lisais pas beaucoup, à vrai dire, avant d'être illustratrice moi-même. Donc voilà, j'ai découvert un peu ce monde-là, j'ai pu un peu tester ce qui me plaisait ou pas comme manière de travailler. Et voilà, j'ai vaguement cherché à un moment à avoir un éditeur qui me suivrait et avec lequel, un ou deux éditeurs avec lesquels je ferais vraiment mon chemin. Mais en fait, le monde de l'édition est tellement mouvant avec les maisons qui ferment, qui se rachètent, que les éditeurs qui partent même, qui changent de maison, que bon, ça n'a pas trop été possible.
D'accord.
Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, du coup, j'ai un parcours qui zigzague entre plein d'éditeurs, mais... ça me dérange pas tellement.
Ouais, d'accord, merci beaucoup. On va écouter Jean-Claude Vanier. Je m'appelle Géraldine, justement.
Ok.
Géraldine Alibeu, vous êtes invitée aux Éclats de Lire qui auront lieu au mois de mai au Vigan, mai 2024. Et avec les Éclats de Lire, on aime bien demander à nos autrices et nos auteurs de nous citer, par exemple, un livre jeunesse qu'ils auraient bien aimé écrire eux-mêmes, un livre jeunesse qu'ils jalousent un petit peu.
Oui, alors c'est vrai, je crois que j'avais répondu Jeux étranges.
Absolument, aux éditions Être, et ce sont des éditions qui n'existent plus malheureusement.
Oui, qui n'existe plus. C'est vrai que il y a des maisons d'édition comme ça qui étaient vraiment à part, qui ont disparu, mais qui laissent quand même des livres assez incroyables. Et là, c'est un livre qui raconte pas d'histoire. C'est des mots comme ça. Des mots, alors je sais pas, hein, je suis pas dans la tête de Christian Bruel, mais des mots qui sont assez évocateurs. C'est des verbes, c'est des noms, c'est des adverbes, ça forme pas des phrases, par exemple, lait, dopage, farine, secte, bulle, des groupes de mots, et Gauzia Machon, je sais pas si on dit vraiment comme ça son nom, Gauzia Machon a produit des images en s'inspirant de tous ces mots, et alors il y a une ambiance assez sportive, quoi, elle a pris le parti de scènes de sport qui sont prétexte à des espèces de mise en scène un peu rocambolesque de plein de sportifs en action, mais avec un côté très absurde aussi. Et c'est comme si on disait des phrases brèves comme ça, bonbon, parquet, gommé, fatigue, signal. Et on imagine une sorte de tension du sport, comme ça, et du moment... qui sont parfois un peu ridicules, un peu qui mènent à rien. Enfin voilà, je trouve que c'est plein d'humour, surtout soit dans le dessin ou dans les mots. Et ça tourne un peu en dérision le sport et la compétition. Et voilà, il y a surtout une grande liberté du coup de ton, de dessin. Et c'est assez réjouissant.
Donc c'est un livre qui vous a marqué. On vous demande également.
Oui, parmi tant d'autres, hein, parce que c'est toujours difficile ce genre de questions.
Bien justement, on vous a également demandé de nous citer un coup de cœur et vous proposer l'invitation
Oui,
Un album
un
publié
livre
par
plus
chez
récent.
Mémo.
Oui, un livre qui est très très mignon, qui est en noir et blanc, avec des dessins vraiment tout simples et très beaux et aussi très drôles. Sans parole, c'est un petit ours qui invite un lapin à prendre le thé et prendre un goûter. Et on sent chaque action est détaillée assez précisément, les petits moments de repos, le moment d'enlever ses chaussures, de lasser son tablier, de préparer le gâteau surtout, qui est une chose très compliquée et qui est complètement ratée en fait. L'ours n'arrive pas du tout à faire sa brioche, elle gonfle trop, elle cuit trop, elle est... Voilà, au final, le lapin la confond avec un coussin, il s'en sert de coussin. Donc tout semble raté, mais finalement, au final, le lapin est quand même très content de l'invitation.
Oui, il passe un très bon moment dans la convivialité, en fait.
Ouais, voilà. Et ils ont une tête incroyable, ces animaux. Et il y a un côté hyper cosy. On sent que ça sent bon, parce qu'il y a cet ant qui fume tout le long du livre. Et on sent que les fauteuils sont confortables, que le thé est tout chaud, qu'il fait bien chaud chez l'ours. Enfin, voilà.
On a envie d'y être.
Ouais, carrément.
Alors, on vous a demandé un personnage préféré, vous en avez deux, ce sont Tom Tom et Nana.
Oui, alors,
Depuis longtemps, je
c'est-à-dire que
crois.
c'est des personnages qui m'ont marqué, je pense comme beaucoup d'enfants, hein, mais c'est vrai que vraiment dans le dessin, ça a été une grande source d'inspiration pour moi dès ma jeunesse. Tous ces petits détails à regarder et chaque expression, chaque geste des personnages dans Tom Tom et Nana, c'était vraiment très précis, très évocateur. J'admirais un peu leur inventivité, ils s'ennuyaient jamais, quoi. Ils avaient toujours des idées un peu folles. Et j'aimais leur chambre, leurs objets, vivaient avec. Et voilà, et elle a un dessin comme ça, Bernadette Desprez, qui est un petit peu, qui est pas très rond, qui est un petit peu, qui est surtout expressif, mais pas, voilà, on n'est pas obligé de le trouver beau, mais il marque, quoi. Voilà, il reste en tête, parce qu'il est vraiment pas stéréotypé, quoi. Je pense qu'elle a passé vraiment beaucoup de temps à observer les enfants et leur univers, et elle les connaît bien, et du coup,
Et ça fait
voilà,
le succès
observer les
qu'on
gens en
connaît, bien
général, je
sûr.
trouve que c'est une grande source d'inspiration.
Ouais. Alors on va quitter un petit peu, on continue avec le portrait chinois, mais on quitte un peu l'univers de la littérature jeunesse. Quand on vous demande de nous citer, une œuvre d'art que vous admirez, tout art confondu, vous répondez par une compagnie de théâtre.
Oui, je pense que c'est une expérience artistique, une
Ouais.
des plus fortes que j'ai vécues.
Waouh.
Donc c'est un spectacle de théâtre burlesque, on peut dire,
Alors, c'est
sans parole.
la compagnie L'Immédiat.
Oui, la compagnie de Camille Boitel, où ça commence un peu comme une petite scène de théâtre très sobre, avec une table, une chaise, un lit, puis un personnage seul qui rentre chez lui. Tout ça est plongé dans le noir, et puis tout s'écroule en fait. La table ne tient pas, la chaise non plus. Rien ne marche, il essaye de suspendre son manteau, mais bon, il n'y a rien qui tient en fait dans ce monde. Le lit s'écroule, il essaye de se coucher dans le lit, mais en fait on se rend compte qu'il y a déjà quelqu'un dans le lit, du coup qui s'échappe. Et il n'y a rien qui va, et l'univers s'agrandit progressivement. Et plus il s'agrandit, plus il est encombré d'objets hétéroclites, empilés les uns sur les autres. Des gens sortent de ces placards, de ces objets. Et plus la scène grandit, plus elle s'écroule. En fait, c'est vraiment l'effondrement avant l'heure, quoi, parce que c'est un spectacle qui n'est pas tout récent, mais à force que tout s'effondre, en fait, il y a une espèce d'hilarité générale qui naît dans le public. Moi, je l'ai vu dans une grande salle, et c'était, on ne pouvait pas s'empêcher de réagir, quoi. C'était trop, on ne savait plus d'où allait apparaître. En fait, la scène s'agrandit sur les côtés, s'agrandit en profondeur. Elle est de plus en plus large et de plus en plus énorme. Et bon, évidemment, c'est difficile à raconter parce que c'est vraiment très très visuel, c'est une expérience, quoi.
D'accord, bien, merci beaucoup pour ces découvertes et ces partages. Et enfin, votre mot préféré?
Alors, bon, ça, c'est toujours pareil. C'est
Ah, il y en a plein
en
peut-être.
fait, il y en a pas un, évidemment, mais je me suis dit, bon, il n'y en a pas un, en fait. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un livre au hasard, je ne sais même plus lequel. Et puis, un des premiers mots qui m'a attiré, c'était le mot œuf. Je me suis dit, oui, œuf, c'est bien.
Il peut en que tenir d'autres.
Oui, ça aurait pu être un autre, hein, ça c'est sûr. Mais œuf, bon, j'aime bien, hein. C'est une forme déjà. C'est une forme très simple. Ça évoque aussi bien la création, je trouve. C'est l'origine d'une naissance. Ça m'évoque aussi beaucoup Henri Michaud, parce qu'il y a un poème qui commence, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, mais un poème qui parle de la naissance, justement, qui parle de pont naquit d'un œuf, et puis il naquit d'une truite, non, d'une morue, il naquit d'un soulier. C'est un personnage comme ça qui enchaîne les naissances. Et voilà, l'œuf, ça évoque ça évoque un peu l'origine. Ça m'évoque quelque chose de... un peu la surprise, quoi.
Ouais.
Enfin, j'y ai pas pensé en disant le mot, mais là, il me vient l'idée du Kinder Surprise. Enfin, c'est un peu ça, l'œuf, c'est vraiment... Il y a tout qui peut arriver.
Eh oui. Merci beaucoup.
Ooh.
Géraldine Alibeux, vous êtes illustratrice et autrice pour la jeunesse, mais vous avez surtout, ou également plutôt, une passion certaine pour les montagnes.
Ben oui, c'est vrai que je suis née dedans, je suis née à Échirolles, tout près du Contre-le-Vercors. Et toute petite, j'ai toujours eu vue sur les montagnes, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, voilà. J'ai vécu dedans, même si je suis une urbaine, hein, je suis vraiment une citadine, j'ai toujours vécu en ville, mais toujours à proximité des montagnes, enfin, sauf mes quelques années d'études à Strasbourg quand même. Où j'étais un peu loin, mais bon, puis j'ai vécu à Paris aussi longtemps. Mais bref, les montagnes ont toujours fait partie de mon emploi du temps, on va dire. Et je les ai pas forcément toujours dessinées, mais il se trouve que depuis quelques années, je les dessine un peu plus.
Avec plusieurs supports différents ou dans plusieurs cadres différents, en fait. Et notamment, donc on va parler de ce magnifique album, bien sûr, que vous avez publié chez Cambourakis en 2022, L'autre côté de la montagne, qui a été assez remarqué. C'est l'histoire de deux jeunes sœurs qui partent en randonnée, qui vont se confronter aux merveilles et aux galères de la marche en montagne. D'où il vient ce projet, s'il vous plaît ?
En fait, c'est vraiment mon album le plus autobiographique. C'est vraiment un mélange de souvenirs, de choses vécues, et notamment avec ma sœur.
D'accord.
Mais pas que. Et c'est un peu, voilà, c'est quand même recomposé, réécrit, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies comme dans ce livre et dans la découverte de la montagne où c'est pas seulement arriver au sommet ou voir des beaux paysages, c'est tout la sensation physique aussi de traverser la montagne, d'être dedans, de vivre avec, de dormir dedans aussi, parce que ça change d'approche. Le touriste, on va dire pas très aguerri, quitte la montagne au maximum à 18h, et il se passe quelque chose de différent quand on reste aussi un peu plus longtemps, quand on reste la nuit plus avec la faune sauvage, avec la roche, avec voilà. Enfin, c'est des sensations assez physiques que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre-là, et aussi parce que j'ai une pratique du dessin d'observation que j'ai voulu aussi partager dans ce livre-là. Ça me paraissait assez approprié pour essayer d'immerger le lecteur dans la montagne, dans cet environnement, avec du temps qui passe. Donc j'ai essayé de mettre beaucoup de pages dans ce livre.
Et oui, ce livre, il parle de la randonnée, mais également de l'avant, quand on la prépare avec la carte, préparer son sac à dos, prendre le bus pour aller jusqu'au point de départ, et également de l'après, quand on a les souvenirs ou quand on va dessiner des choses qu'on a vues lors de la marche.
Oui, mais c'est vrai que préparer son départ, ça fait déjà partie du voyage, je trouve.
Oui.
Et plus on y va, plus on sait que là-haut, entre guillemets, quand on est loin de tout, chaque petit objet compte. Alors, au moment de la préparation, on a envie d'en mettre le moins possible parce qu'on se dit, bon, j'ai pas envie de porter trop lourd. Et puis, une fois qu'on est là-haut, le moindre objet ou nourriture devient un luxe extrême. Donc, c'est vrai que la préparation du sac, c'est un peu crucial. Voilà, il faut choisir entre des choses un peu non essentielles, comme, je sais pas moi, un livre, une pomme, enfin.
Le cahier pour écrire.
Et puis des choses incontournables, quoi.
Le rythme de l'album est assez particulier. Enfin, c'est particulier. ça change des albums traditionnels, peut-être, on va dire. Et vous avez du texte et des plans rapprochés sur les deux sœurs. Et avec des grandes doubles pages sans texte où les paysages se succèdent. Et le tout dans un grand format aussi. Vous aviez eu carte libre avec l'éditeur pour faire ce livre. Comment ça s'est passé ?
Ben, en fait, c'est un livre que, quand j'écris moi-même le texte, c'est vrai que je pars sur une idée librement, quoi. Forcément, je commence à faire des dessins au format qui me plaît. Voilà. Et ensuite, je vais voir un éditeur. Bon, j'attends pas d'avoir fait tout le livre quand même pour aller voir un éditeur, mais c'est vrai que là, je ne me suis pas mis de contraintes de format, de durée, etc. Après, une fois que j'ai fait tous les dessins, c'est l'éditeur lui-même qui m'a proposé d'agrandir très légèrement les dessins. En fait, en général, je travaille à l'échelle 1. Et là, ils sont très légèrement agrandis. Je ne sais pas, c'est de l'ordre de 5%, mais le fait que ce soit un si grand format, c'est plutôt un choix de l'éditeur parce que je pense qu'il a eu raison.
Oui.
On est plus dedans, on est plus dans ces...
Ah, on est dans les très hautes montagnes, ouais.
On est plus plongé dedans et c'est l'idée aussi de partager ça avec les petits lecteurs. Un grand format, c'est tout de suite plus... Bon, c'est plus compliqué à tenir en main, mais l'idée, là, c'est vraiment de mettre un peu plus de temps à tourner les pages et de prendre le temps. Et ces images-là, elles ont plusieurs statuts parce qu'elles sont à la fois réalistes et à la fois... Les couleurs sont...
Les couleurs sont incroyables. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu. Elles sont très, très belles.
Alors, voilà, il y a un espèce de jeu dans le livre sur qu'est-ce que c'est que ces images, quoi. Est-ce que c'est ce qu'elles voient ? Est-ce que c'est ce qu'elles imaginent ? Est-ce que c'est ce que Tom Janet a dessiné ? Est-ce que c'est ce qu'elle va dessiner plus tard ? Voilà, il y a un peu un doute, quand même, sur ces images.
Il y a ce personnage de la tante que vous venez de citer qui est assez important, qu'on ne voit pas. Elle n'apparaît pas dans le livre, mais on en parle à plusieurs reprises. Et c'est un personnage un peu malicieux quand même, parce qu'elle incite les jeunes filles, hein, presque encore des enfants, à partir en randonnée. Elle leur donne une carte hygiène vieille de 10 ans. Après, elle leur offre un cahier pour qu'elles puissent dessiner. C'est un personnage de votre vécu aussi, c'est...
Alors, j'ai pas de tante Janet. Non, c'est vrai, j'ai pas de tante Janet. Mais... Ça évoque pour moi, il y a des gens comme ça dans la vie qui vous inspirent, mais ils sont pas au courant du rôle qu'ils ont eu pour vous. Après, Tante Janet, je pense que c'est un peu plein de choses. En même temps, Tante Janet, ça pourrait être la carte, par exemple. Moi, les cartes de randonnée, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et fait rêver. Regarder une carte et se dire que c'est des vrais paysages que je peux traverser. Alors ça, c'est un moteur de fantasme très puissant. Voilà, Tante Janet, ça pourrait être aussi les récits que certains me font. Ça peut être juste voir quelqu'un partir en bivouac et pas pouvoir y aller avec lui. Voilà, tout ce qui, en fait, fait travailler le cerveau et fait se dire un jour, bon, ça y est, j'y vais, j'ai envie d'y aller, c'est à moi de le faire.
Vous avez choisi de représenter, elle a dit, deux sœurs. C'est important pour vous d'avoir ces deux personnages et de représenter cette sororité, parce que ça aurait pu être quelqu'un de seul qui part en randonnée également.
Oui, alors là, bon, là, c'est plus autobiographique. Là, j'ai vraiment une sœur avec qui j'ai randonné. Et j'aimais bien, en fait, l'attitude légèrement différente qu'elles ont entre une qui est pas très, un peu moins dégourdie, un peu moins assurée.
Elle a moins l'habitude.
Et qui fait confiance, en fait, voilà. Ouais. Donc, du coup, elle se pose pas trop de questions non plus. Elle suit et elle se laisse porter. Et c'est aussi deux attitudes par rapport à la montagne. L'autre côté de la montagne, qui est le titre du livre, c'est pas seulement ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est voir un autre aspect de la montagne, pas celui des cartes postales, pas celui qu'on attend forcément, mais le côté réel, quoi, le côté mouillé, froid, inconfortable, inattendu. Donc c'était bien qu'il y ait une sœur qui est en apparence en tout cas plus terre à terre, plus organisée, qui sait ce qu'il faut faire, et l'autre qui peut du coup se permettre d'être un peu plus dans le rêve, dans l'instant, et aussi plus sensible au découragement, quoi, parce que voilà, c'est pas vraiment un livre d'action, mais c'est un livre quand même avec beaucoup d'intériorité où le personnage principal, enfin la narratrice, c'est pas vraiment une héroïne, voilà, elle fait pas beaucoup d'exploits, quoi, elle est pas, si elle est toute seule, je pense qu'elle aurait pas osé faire ça, en fait.
On n'est pas loin de la quête initiatique non plus.
Ouais, voilà, c'est vraiment une initiation, un moment clé qui est le début d'autres aventures.
Et ce que vous disiez juste avant, comme quoi ce livre, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est très dans l'intériorité, ben c'est exactement en fait une randonnée. Quand on marche en montagne, on se confronte à soi-même, on a énormément de temps pour réfléchir. Donc le livre le représente très bien, ça.
Oui, c'est exactement ça. Moi, je suis très adepte de ces aventures qui ne sont pas des exploits, qui sont vraiment des expériences, qui sont de l'ordre de l'endurance et du temps, d'expérience du temps.
L'autre côté de la montagne, par Géraldine Alibeux, c'est sorti en 2022 chez Cambourakis. Et c'est un très bel album qui se lit à tout âge, bien sûr. Un peu de musique.
Ainsi toujours vers l'azur noir, où tremble la mer des topazes, fonctionneront dans ton soir l'hélice à ses clistères d'extase. À notre époque de sagou, quand les plantes sont travailleuses, le lys boira les bleus d'égout. Dans tes proses religieuses, le lys de Monsieur de Kerdren, le sonnet de 1830, le lys qu'on donne aux ménestrels avec l'œillet et la marante. Des lys, on n'en voit pas. Et dans ton verre, tel que les manches des pécheresses au doux pas, toujours frissonnent les fleurs blanches, toujours cher quand tu prends un bain. Ta chemise aux aisselles blondes se gonfle aux brises du matin. Sur les myosotis immondes, l'amour ne passe à tes octrois que des lilas au balançoire, et les violettes du bois crachent à sucré des nymphes noires. Et j'ai dit ce que je voulais, et j'ai dit ce que je voulais, et j'ai dit ce que je voulais, et j'ai dit ce que je voulais.
J'aimerais bien maintenant, Géraldine Alibeux, si vous le voulez bien, qu'on parle de Madame Hibou cherche appartement.
Oui.
C'est un livre que vous avez illustré seulement et pas écrit. Le texte est de Caroline Dorca Fennec.
Oui, c'est ça.
Voilà, aux éditions à Pas de Loup.
C'est son premier album jeunesse. Caroline Dorca Fennec écrit des romans adultes aussi. Mmh. Et elle s'est lancée dans l'écriture, à vrai dire, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Elle était scénariste longtemps, mais voilà, elle commence à publier des livres. Et donc, je la connaissais avant l'album. On a décidé de faire ce livre ensemble. C'est elle qui m'a proposé cette histoire.
D'accord.
Et c'est seulement la deuxième histoire que j'illustrais avec des personnages qui sont des animaux ou... C'est vraiment des animaux un peu anthropomorphisés,
oui.
Si on veut.
Oui, avec Jean-Kévin, alors.
Voilà, après Jean-Kévin, de Cécile Roumiguer. C'est des histoires qui mettent en scène des animaux, mais c'est vraiment des problématiques humaines. Et là, j'ai trouvé vraiment drôle son texte, parce que si on raconte ça avec des personnages humains, c'est quand même assez rébarbatif. C'est des problèmes administratifs pour trouver un logement.
Oui, alors c'est des problématiques humaines, mais même très adultes.
voilà, très adulte, mais en fait, elle l'a écrit parce que un jour, sa fille, en marchant dans la rue, a remarqué une queue énorme des gens qui faisaient la queue, et elle lui a demandé, mais maman, c'est pourquoi ils font la queue, tous ces gens? Et en fait, il se trouve qu'ils faisaient la queue pour attendre un logement, ça devait être devant, l'office des HLM. Et donc, elle lui a expliqué que voilà, c'était des gens qui faisaient la queue en attendant d'avoir un appartement. Et bon, effectivement, elle a trouvé ça un peu... ça lui a donné l'idée d'écrire une histoire avec ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour un enfant, on leur en parle pas en général, et pourtant c'est quand même présent, surtout dans les grandes villes, enfin à Paris en l'occurrence,
les voit. Il y a pas une sortie de l'enfance, il y a tous ces étudiants qui se retrouvent sans logement, c'est assez terrible.
Bah oui, les enfants voient ça, ils voient les gens qui dorment dehors, ils en entendent parler aussi, et ils voient les problèmes de logement. Déjà, ils vivent aussi parfois eux-mêmes les problèmes de logement. Donc, c'est quand même un problème qui les préoccupe. Et là, donc, c'est l'histoire d'une dame hibou qui a un appartement tout vétuste, enfin un arbre tout vétuste, et elle rêve d'avoir un vrai appartement, en fait, un appartement comme les humains, c'est-à-dire, avec des vraies chambres, une vraie cuisine, etc. Et donc, elle va devoir faire un dossier. Alors, le dossier, c'est pareil. Je pense que les enfants, ils entendent leurs parents parler de dossiers. Il faut faire des dossiers pour plein de choses, des dossiers médicaux, des dossiers de demande de bourse, d'aide, etc. Donc, c'est un mot qui n'est pas si compliqué, en fait. Donc, elle fait son dossier, elle fait la queue. Et tout ça est assez drôle. Et dans la queue, elle va rencontrer d'autres hiboux. Super sympa. Alors, c'est un monde où il n'y a que des hiboux. Hein. Pour le coup, autant dans Jean-Kevin, il y avait toutes sortes d'animaux. Là, c'est un monde où on imagine qu'en fait, il n'y a que des hiboux. Et c'est un monde assez sombre, puisque les hiboux vivent la nuit. Mais du coup, j'ai fait des hiboux très colorés. Donc, je me suis quand même beaucoup amusée à dessiner des hiboux.
Oui, ils sont mignons comme tous ces hiboux, ils sont très marrants, ça colle bien avec l'humour du texte aussi. Heureusement qu'il y a de l'humour, parce que c'est vrai que la problématique n'est pas très rigolote. Et donc, on voit cette madame hibou confrontée aux méandres de l'administration, où elle doit appeler pendant des heures, les bureaux 27, le bureau 129, etc. Et à la fin, forcément, il n'y a pas assez de logements pour tous ces hiboux, mais madame hibou a la bonne idée de créer un habitat collectif.
Voilà, c'est ça, et c'est l'autoconstruction, quoi. Ils décident de construire eux-mêmes leur habitat, qu'on imagine bien sûr écologique, etc., tout confort, et un peu communautaire aussi.
Mais c'est vous qui l'avez imaginé, cet habitat en dessin. De quoi vous êtes inspiré pour créer ces petites cabanes sur pilotis?
Ben là, c'est vrai qu'on imagine une construction bois, hein, parce qu'ils parlent d'aller ramasser le vieux bois, de recycler un peu le bois pour faire des maisons en bois. Et bon, le côté surpilotis, c'est le côté un peu perché, parce que les hiboux, malgré tout, ils vivent à l'origine dans les arbres. Donc, pour garder un petit peu de hauteur, et puis c'est le côté un peu bricolage. Quand on fait soi-même, on ne fait pas des choses forcément très droites, très, très normées. Et voilà, chaque maison a un peu son petit caractère, mais celle c'est de ça. Madame Hibou est peinte en jaune comme elle voulait, avec une terrasse. Enfin, c'est quand même confort, quoi. C'est à la fois bricolé et confort. Enfin, c'est un peu la maison idéale, quoi, j'imagine. À la fois lumineuse, confortable, un peu cosy.
Et puis cette Madame Hibou, elle a la particularité de terminer son histoire en écrivant des livres, en fait, des histoires pour les enfants.
Oui.
Est-ce qu'il y a une petite identification que vous faites? J'ai vu que c'était votre photo de profil sur Instagram, ce hibou.
Ah oui, alors je me rappelle même plus ce que j'ai mis sur Instagram. Mais forcément, moi, quand j'essaie un personnage, je m'identifie toujours un peu. Il y a un moment où forcément je m'identifie. Mais là, l'idée qu'elle soit passionnée de livres pour enfants, c'est quand même l'idée de Caroline.
Bien sûr.
Elle écrit, en fait, elle partage aussi dans la file d'attente. Elle s'occupe des enfants, elle aime bien les enfants. Et elle lit des livres pour enfants. Donc là, bon, c'est assez simple. Hein. Moi, je suis assez, évidemment passionnée de livres pour enfants. Donc j'ai un peu dessiné les livres qu'il y avait autour de moi, chez moi, dans la maison de Madame Hibou. Elle lit d'ailleurs mes propres livres aussi. Et elle lit Jean-Kévin. Voilà, c'est des petits clins d'œil. Il y a pas mal d'amis aussi représentés dans les livres. Alors on ne les reconnaît pas forcément tous, hein, mais il y a pas mal de mes amis qui sont dans la maison de Madame Hibou, Betty Bone, Bernadette Gervais, Anne Bruny, enfin voilà.
j'avais pas remarqué tout ça, mais je vais faire une deuxième lecture donc, avec ces petits indices, super. Ce livre, il me fait un petit peu penser au refuge.
Oui, ben c'est vrai que c'est le côté. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup, le thème de la construction, en fait. Construire, ouais. Construire des cabanes, construire des maisons. Construire, ben, dans un de mes premiers livres qui s'appelle La Marguita, il y avait une dame qui se construisait un mari. Voilà, j'aime bien parce que c'est en fait c'est presque une mise en abîme de c'est la manière dont je travaille aussi par petits morceaux, par découpage. C'est l'idée qu'on commence à construire et on ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Et puis, je ne sais pas, c'est quelque chose de réjouissant, l'idée de construire soi-même les objets ou les lieux où on va vivre.
Ouais.
C'est, pour moi, ça fait partie du happy end ou du côté positif ou du côté, voilà, quand on s'ennuie ou qu'on a un problème, si on est dans la construction, va mieux.
Alors Le Refuge, on va juste le présenter brièvement et ensuite ce sera la fin de cette émission. C'est un livre que vous avez écrit et illustré, édité par Cambourakis. C'est un personnage, Monsieur Richard, qui ressemble un peu à un jeune garçon qui construit un refuge. Et ce refuge va servir à énormément de personnes différentes.
Oui, en fait, il va au début, c'est un refuge personnel, un refuge pour lui tout seul. Et puis... En fait, à peine il est commencé ce refuge que ça intéresse beaucoup de gens. Les gens qui passent se disent ben oui, non, mais bien sûr, mais on va l'aider, mais ça c'est pas seulement pour l'aider, c'est aussi pour s'installer dedans avec lui,
ouais.
Pour en profiter. Donc il grandit, plus les gens arrivent, plus le refuge grandit et se transforme. Et à la fin, c'est un refuge, disons qu'il appartient plus à personne. Il est à tout le monde et puis on imagine qu'il va encore transformer. De multiples façons.
Ce sont des cabanes, des abris dont on a tous besoin, en fait.
Oui, en fait, c'est un livre un peu particulier parce que je l'ai imaginé au sein d'une résidence où j'ai passé 6 mois dans une école primaire avec une classe de CP. En fait, j'avais ce thème du refuge. Je trouve que le refuge, c'est visuellement, artistiquement, c'est très riche. Il y a plein... Tout peut être un refuge. J'ai proposé aux enfants de s'emparer de ce thème aussi et de construire des cabanes. On a commencé par construire ces cabanes dans leur classe. Et donc, quand on construit une cabane, par définition, on a autour de soi. Et on est allé au marché avec les enfants. On a récupéré des cartons, des cagettes. Ils ont ramené des petits trucs de chez eux. On a pris du scotch. Et il fallait que ce soit à leur mesure. Donc, on n'a pas trop mis pas tellement de clous et de vis, quoi. C'était surtout des... du scotch et des petits colliers de plastique. Et ils ont construit des cabanes qui ressemblent fort à la cabane de Richard, en fait. Voilà. Je me suis pas mal inspirée de ce qu'ils ont construit pour dessiner ce refuge. Et aussi de nos conversations, parce qu'une fois qu'on a construit un refuge, en fait, ça devient un lieu de vie. Et pendant 6 mois, avec ses enfants, notamment à la récréation, on venait à la cabane, c'est pas seulement aller dedans, mais c'est être autour, c'est le point de ralliement, quoi.
Il y a de la cohésion sociale.
On est là et on discute. Et qui veut voilà, sociabiliser, qui veut se rencontrer, ben vient autour de la cabane et puis discute, quoi, tout simplement.
Superbe. Ce livre, vous l'avez travaillé en classe ensuite ?
Oui, je l'ai beaucoup lu.
Oui.
Beaucoup travaillé. Enfin, il y a beaucoup d'enfants. On fait leur petit refuge en papier.
Oui, c'est ça. Je suppose que après la lecture de ce texte, mais aussi l'expérience de cette résidence que vous avez dû raconter, tous les enfants ont envie de faire leur cabane aussi.
Oui, il y en a même une classe qui a fait un spectacle à partir du refuge, en mêlant de la danse et du théâtre. Enfin, ouais, c'est assez réjouissant. Mais c'est vrai que c'est un thème génial. De toute façon, les cabanes, tous les enfants en font. À divers degrés, quand les enfants des villes ne font pas les mêmes cabanes que les enfants de la campagne. Mais, voilà, la cabane, j'aime bien le fait que ça puisse être vraiment minimaliste, quoi. C'est juste des fois bouger 2 chaises et mettre une couverture. Et puis des fois, c'est plus sérieux, quoi. Il y en a qui font des cabanes avec leur papa qui sort la visseuse. Papa ou la maman, d'ailleurs.
Oui.
Et voilà, j'ai été dans des classes où dans la cour, ben, du coup, il y avait... des cabanes en palette, il y avait la menuisière du coin qui avait aidé à consolider tout ça, enfin un peu comme dans le livre, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez super comme thème. Et puis une fois qu'on a une cabane, alors en général il faut mettre les règles, quoi. Enfin, on n'est pas obligé, mais nous on a fait ça dans l'école. Et puis il y a un petit peu cette idée là aussi dans le refuge, c'est à quoi ça sert. Donc on décide, est-ce qu'on a le droit de manger, de lire, de dessiner ? Est-ce qu'on a le droit de faire ses devoirs ou ses punitions dedans ? Enfin, c'est toutes des questions qu'on s'est posées à l'école pour mettre un cadre et donner une atmosphère et une personnalité à cette cabane, par exemple.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Géraldine Alibeu. On se retrouvera donc au mois de mai pour les éclats de lyre au Vigan. On va écouter le dernier morceau que vous m'avez proposé, Colin. Et je voulais savoir si vous aviez un petit mot à dire sur la programmation musicale avant qu'on se sépare.
Oui, alors, c'est pareil, c'était très difficile de choisir quatre morceaux, mais c'est des musiques qui m'ont accompagnée à divers moments. Mohamed Lamouri, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chanteur de la ligne 2 du métro à Paris, la ligne 2 qui était ma ligne sur laquelle j'habitais, et un chanteur qui se balade avec un synthétiseur portable et qui a fini par faire des concerts et sortir un disque.
D'accord.
La musique qu'on va écouter en dernier, c'est Colin, c'est une musicienne très inventive qui multiplie les instruments et les couches sonores, et notamment pour travailler et dessiner, c'est très agréable.
D'accord.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À très bientôt. Au revoir, Géraldine.
Au revoir.
Captain of none.
maintenant.